Vous écoutez, on lit pour vous.
Coupez les liens. Un texte de Paul Arcand, paru le 7 décembre 2024 dans la presse. Julie est anxieuse. Ses parents viennent souper à la maison et elle sait qu'à un moment ou l'autre de la soirée, sa mère va lui envoyer une vacherie. La phrase qui blesse, le commentaire qui tue, le mépris qu'elle enfonce dans la tête de sa fille dès qu'elle en a l'occasion. Normalement, Julie ferait semblant d'encaisser, d'étouffer ses émotions afin de préserver l'harmonie de la famille. Pas cette fois. Ce sera le point final d'une relation toxique qui l'empoisonne depuis sa naissance. Combien êtes-vous à avoir coupé les liens avec des parents qui n'auraient jamais dû avoir d'enfants? Avez-vous divorcé de vos parents et renoncé au droit de visite? C'est un sujet tabou dont on commence à peine à parler ouvertement. Le passé religieux a laissé des traces. Notre vieux fond judéo-chrétien nous rappelle « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Je ne parle pas de parents qui ont battu violemment ou agressé sexuellement leurs enfants. Je ne parle pas des crises et des accrochages inévitables à l'adolescence. Je parle d'adultes dont l'image d'une famille aimante camoufle un climat d'intimidation et de violence verbale. Éric, mon père ne jouait pas avec nous. Il nous faisait pleurer. Il ne riait pas avec nous. Il riait de nous. Jamais de mots gentils. Que des insultes. Toujours se faire traiter de niaiseux et d'épais. J'ai gardé le contact avec lui pendant des années par culpabilité. Il ne peut pas faire partie de ma vie. J'ai décidé de le laisser seul, de le laisser crever seul. Daphné. J'ai commencé à couper les ponts pendant la pandémie. Je n'en pouvais plus de vivre leur chantage émotif. Chaque fois que je tentais de me réconcilier avec eux, je subissais leur colère. J'étais la coupable, pas eux. C'est toujours la faute des autres. Simon. J'ai aimé mon père avant de le détester. Tous les membres de la famille, tour à tour, à notre rythme, nous l'avons rejeté. Fini les conflits interminables, la manipulation et les crises. Quand il s'est suicidé, j'ai eu un pincement au cœur. Aujourd'hui encore, je me demande si j'ai fait le bon choix. Est-ce que j'aurais dû l'endurer davantage plutôt que de l'abandonner à ses remords? Je me suis choisi. Mais je garde le sentiment d'avoir fui vers la solution facile. Vincent. Ma mère n'arrêtait pas de dire à ma copine qu'elle ne comprenait pas comment elle avait pu tomber amoureuse d'un homme aussi idiot et sans envergure. La docteure Jannick Coutu, psychologue. L'amour d'un parent est censé être inconditionnel. C'est la base de la sécurité. Quand ça devient une source de détresse et de souffrance, tu vis des sentiments contradictoires qui provoquent la culpabilité. L'enfant, devenu adulte, peut se sentir seul à vivre une telle situation. Joël a eu un choc en voyant que ça existe des gens qui s'aiment vraiment. Des familles pour qui le temps des fêtes n'est pas un cauchemar. La naissance de ses enfants l'a poussé tout doucement à éloigner ses parents. Elle souhaite créer un environnement familial riche, équilibré, loin de l'influence malsaine des grands-parents. Ce n'est pas de la vengeance, mais un besoin de se protéger. Les êtres narcissiques qui vieillissent ne deviennent pas soudainement gentils et soucieux du bien-être des autres. Il y a souvent des raisons qui expliquent pourquoi des personnes âgées ne reçoivent jamais de visite. Elles sont responsables de leur solitude. Tu as largué tes enfants, tu as donné très peu de nouvelles et tu réapparais dans leur vie. Tu t'attends à quoi? Qu'ils se précipitent dans tes bras? Que le lien soit plus fort que l'ensemble des blessures morales que tu leur as infligées? C'est pire quand la maladie frappe. On s'attend à ce que la fille ou le fils soit au chevet de ses parents jusqu'au dernier moment et accepte de mettre le passé de côté. Il faut en profiter pour se dire les vraies affaires. Pour certains, c'est nécessaire, mais pour d'autres, c'est impensable. La psychologue Jeannick Coutu observe que les parents toxiques vont déléguer la responsabilité de leurs émotions et de leurs besoins à leur enfant. Comme si c'était l'enfant qui devait s'assurer que le parent se sente bien. Le sentiment d'être coupable, de ne pas prendre soin du parent est fréquent. Ce n'est pas le rôle de l'enfant. Il faut mettre des limites et ne pas céder aux personnes qui ne peuvent pas comprendre et qui portent un jugement. Le risque est réel. Des familles se fracturent. Chacun des membres choisit son camp. Tu es avec papa et maman ou tu es contre. Vous devenez la fille égoïste ou le fils ingrat et rebelote pour la culpabilité. C'est à ceux qui en demandent le moins qu'on a envie de tout donner. C'était « Couper les liens », un texte de Paul Arcan paru le 7 décembre 2024 dans la presse.
La peintre Madeleine Arbour est décédée à l'âge de 101 ans. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 11 décembre 2024 dans Le Devoir. La pionnière du design au Québec, artiste multidisciplinaire et co-signataire du manifeste Refus global en 1948, Madeleine Arbour n'est plus. Sa famille a fait l'annonce de son décès survenu mardi soir. L'artiste était âgé de 101 ans. Son parcours atypique est à l'image de ses trouvailles fantaisistes. Autodidacte, elle avait quitté l'école à 15 ans. Elle se passionnait pour tout. Faut-il s'étonner qu'elle se soit retrouvée au milieu d'une bande de jeunes gens, autant de femmes que d'hommes, cristallisée par le magnétisme de Paul-Émile Bordua? Le temps de Duplessis auquel s'objectent les automatistes de Bordua était aussi celui où, pour la première fois, la menace de la bombe atomique régnait en force. L'être humain s'était bel et bien donné les moyens de détruire le monde, expliquait le professeur Gilles Lapointe, spécialiste du mouvement automatiste. Les signataires du manifeste en appellent à renverser ce monde. Ils parlent de générosité, d'amour, de respect de la nature, mais aussi de la question politique et religieuse. En 1948, c'est à Madeleine Arbour que le poète Paul-Marie Lapointe, venu du lac Saint-Jean, montre le manuscrit du « Vierge incendiée ». Autre coup de tonnerre dans le ciel culturel, ce livre fut le deuxième ouvrage publié de l'univers des automatistes après le manifeste Refus global. « Il serrait sur son cœur un manuscrit », expliqua Madeleine Arbour au Devoir. Le texte était dactylographié. Il y avait des annotations en vert et en rouge. C'était le Vierge incendiée. Il voulait me le montrer. Il était venu pour ça. Pourquoi elle? Il m'a dit qu'il avait lu le manifeste du refus global. Il a lu les noms des signataires et les a cherchés dans l'annuaire téléphonique. Il a cherché Arbour et c'est sur moi qu'il est finalement tombé en premier. Elle fut la compagne de Pierre Gauvreau, signataire aussi, comme son frère Claude, du refus global. Pour ce dernier, elle réalisa des costumes de scène. Pour Madeleine Arbour, l'art était un aliment fondamental dont toute la société ne saurait être privée. Dans les débuts de la télévision de Radio-Canada, elle anima, à l'enseigne de la boîte à surprises, des chroniques de bricolage destinées aux enfants. Le club des voleurs de coques. Dans les années 1950, avec Jean-Paul Riopel et sa bande, Madeleine Arbour se prend à voler des coques de croix de chemin. C'est Riopel lui-même qui avait lancé ce qui leur semblait un jeu. Lors de ses fréquents séjours au Québec, Riopel se transformait en chasseur de coques. « Il est venu me visiter alors que j'étais triste », raconta Madeleine Arbour. « Pour me consoler, il m'a offert tout ce que je voulais. Eh bien, ce que je voulais, c'était le coq de la croix de chemin de Saint-Hilaire. » Un club des voleurs de coqs dont Madeleine Arbour était membre exista durant des années. Les voleurs s'étaient d'abord emparés du coq de la croix de chemin de Saint-Hilaire. Ils ont ensuite enlevé plusieurs emblèmes, plus de 10, disait Harbour, des coques de clochers aux girouettes de grange, avec l'idée de les remettre un jour à un musée québécois. La designer, mère à une époque où cela vous clouait d'ordinaire à la maison, elle valsait autour d'engagements multiples, sa vie s'égrenant entre Montréal, New York et Paris. Au milieu des années 1960, elle fonde dans le vieux Montréal, rue Saint-Paul, un atelier de designer féminine. Elle en avait assez, expliqua-t-elle, de voir que les employeurs mettent de côté les femmes. Entre 1986 et 1994, la designer obtient la tâche de réaménager l'intérieur des avions d'Air Canada aussi bien que des trains de Via Rail. Elle repense aussi les salles de réception de la résidence officielle du gouverneur général du Canada à la Citadelle de Québec en y installant, en 1986, un lustre de sa conception baptisé « Rivière de lumière ». Le prix Sam Lapointe, lequel célèbre la carrière exceptionnelle d'un designer québécois, a été remis à Madeleine Harbour en 2002. Hommage. Odile Tremblay, journaliste du Devoir, lui avait rendu hommage pour son centenaire. Elle écrivait alors « Madeleine Harbour a connu la pauvreté, l'abandon paternel, mais jamais l'inculture. Elle note à raison que l'artiste avait du caractère et croyait en son étoile. » Pressé de réagir au décès de Mme Harbour, le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, a déclaré que « c'est sûr que c'est une triste nouvelle ». Il ajoute que c'est « quelqu'un qui a marqué le Québec de par son engagement. Je pense notamment à un refus global. C'est un événement que j'ai déjà désigné comme étant un événement historique du Québec. Donc, évidemment, je veux dire que tous ceux qui y ont contribué sont des personnages importants. » Madeleine Harbour s'est éteinte sereinement et paisiblement au soir du 10 décembre 2024 au centre Laurent Bergevin à Lille-Perrot. C'était « La peintre Madeleine Harbour est décédée à l'âge de 101 ans », un texte de Jean-François Nadeau paru le 11 décembre 2024 dans Le Devoir.
Vincent Francoeur publie un premier roman sur les amours queer toxiques. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 27 novembre 2024 dans le magazine Fugue. Justin et Éric amorcent leur vingtaine à Montréal. Colocs, meilleurs amis et futurs cégepiens, ils pataugent dans les eaux de l'amour toxique. Le premier, qui travaille comme danseur nu, s'ennuie d'une relation bancale, fréquente un homme qui ne le fait pas vibrer, peine à gérer sa solitude et plonge dans les relations interdites. Le deuxième s'entête à demeurer dans un couple teinté de jalousie, de violences psychologiques, physiques et sexuelles. En explorant leurs premiers pas amoureux hasardeux, Vincent Francoeur publie son premier roman « Tu y connais quoi, toi, à l'amour ?» Tu publies ton premier livre à 38 ans. À quoi ressemble ton parcours? Je suis né à Magog, j'ai fait mon bac en sexologie à l'UQAM et j'ai vécu à Montréal durant des années, mais ça fait 11 ans que je vis à Toronto. J'ai fait ma maîtrise ici et je travaille comme psychothérapeute à temps plein, en plus d'enseigner à l'Université de Toronto. L'écriture a toujours fait partie de ma vie. Je viens d'une famille de lectrices, surtout mes sœurs, ma mère et ma grand-mère. J'ai toujours pensé que j'allais écrire. Justin et Éric sont à un tournant dans leur vie. Que voulais-tu explorer avec eux? J'avais d'abord envie d'écrire sur l'amitié dans nos communautés. Même si le titre évoque l'amour et que le roman parle beaucoup de ça, la relation principale est celle entre Justin et son meilleur ami. À ce moment de leur vie, ils se demandent si leurs histoires amoureuses vont prendre plus de place que leur amitié. Ils ne sont plus des enfants. Ils veulent commencer leur vie d'adulte, mais en même temps, ils commencent le cégep. Je crois qu'ils étaient encore des ados au début du livre et qu'ils sont devenus de jeunes adultes à la fin. c'est une histoire de coming of age à 100%. Le livre traite abondamment de quêtes amoureuses, de couples, de dates et de ce qu'est l'amour. Quel angle as-tu pris pour aborder ces questions? Il n'y a pas beaucoup d'histoires sur les relations toxiques dans nos communautés, alors que j'en vois beaucoup comme psychothérapeute. Je trouve ça important d'en parler et je voulais montrer deux types bien différents. La relation très toxique entre Marc et Eric, ainsi que la jalousie d'Anna envers Cathy. Cela dit, Anna est beaucoup moins désagréable que Marc, qui est un abuseur avec un A majuscule. Je voulais aussi montrer que Justin n'est pas toujours très cool. Lui-même blesse quelqu'un amoureusement pendant tout le livre. Puisqu'on est dans sa tête, on réalise que même de bonnes personnes blessent aussi des gens dans des relations amoureuses. Justin et Eric restent longtemps dans plusieurs situations malsaines. Sont-ils des mésadaptés amoureux? Je pense que non. Il faut se rappeler que l'histoire se déroule en 2004 et ne jamais oublier qu'on ne se fait pas donner de guide quand on arrive dans le milieu gay à Montréal. On essaie peut-être de copier ce qu'on a vu dans les livres, à la télé ou avec nos parents, mais on n'a tellement pas d'outils pour entrer dans des relations queer saines. Ça va des deux côtés. Moi, je n'ai pas d'outils et la personne que je date non plus. À l'adolescence, quand on est censé développer nos outils sociaux, on est trop occupé à se cacher, à être intimidé ou à s'invisibiliser pour ne pas être remarqué. Ça ne donne pas des outils puissants pour entrer dans des relations saines à 21 ans. Dans nos communautés, je remarque que plusieurs hommes gays dans la vingtaine et dans la trentaine ont des relations comme s'ils étaient encore adolescents. Justin est attachant, mais aussi très immature et impulsif. Comprends-tu l'envie des lecteurs de vouloir le shaker pour qu'il se réveille? Vraiment, il a 21 ans, il ne sait pas quoi faire, il n'est pas parfait. Je pense que c'est la force de mon roman. Les personnages font des choses qui se peuvent, avec toutes leurs imperfections. Je ne voulais pas écrire un personnage modèle. Ce serait ennuyant. Il travaille comme danseur nu. Pourquoi lui as-tu donné cette profession? J'ai travaillé dans l'univers des bars de 18 à 26 ans. J'avais envie d'illustrer cet univers-là et de parler de travail du sexe, parce que c'est un peu tabou. Ça donne un truc edgy au livre. J'ai moi-même travaillé dans des bars de danseurs. Je connais beaucoup cette réalité. J'ai des amis, des amants et des clients qui font ça. Je trouvais ça important d'en parler de manière un peu casual et lucide. Justin et ses amis se perdent dans l'alcool, la drogue, la fête et les courtes nuits. Est-ce un passage obligé dans la jeune vingtaine? Pas obligé, mais c'est un passage très fréquent. Mon éditeur avait d'ailleurs remarqué que mes personnages étaient pauvres et qu'ils sortaient toutes les semaines. Il trouvait ça incohérent, l'idée d'être pauvre et de dépenser autant en alcool, alors que c'est très possible. Plusieurs queers s'éloignent de leur patelin où ils ne pouvaient pas être eux-mêmes. Ils arrivent dans un milieu où le monde gay existe beaucoup dans le nightlife et ils s'y perdent un peu. C'est aussi très le fun de goûter à cette liberté-là pour la première fois de sa vie en étant entouré de gens de nos communautés. C'est un peu normal de s'y perdre. C'était « Vincent Francoeur publie un premier roman sur les amours queer toxiques ». Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 27 novembre 2024 dans le magazine Fugue.
Les chiens officiellement autorisés dans le métro, mais pas les vélos électriques. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 5 décembre 2024 dans Le Devoir. Estimant que son projet pilote mené depuis 2 ans a été un succès, la Société de transport de Montréal, STM, a décidé d'autoriser de façon permanente les chiens dans le métro. Dans son nouveau règlement, elle interdira toutefois les vélos électriques, trottinettes et autres véhicules électriques en raison des dangers de combustion liés aux batteries de ces appareils. Depuis octobre 2022, les propriétaires de chiens pouvaient monter à bord du métro avec leur chien sans devoir l'enfermer dans une cage. Ils devaient tout de même munir leur animal d'une muselière, le tenir en laisse en permanence, les empêcher de monter sur les sièges et nettoyer tout dégât occasionné par l'animal. Selon la STM, le projet pilote a démontré que les règles imposées étaient suffisantes pour assurer une cohabitation harmonieuse pour l'ensemble des passagers. Les mêmes conditions seront maintenues. Les chiens seront admis dans le métro en tout temps les fins de semaine et les jours fériés et en semaine. Ils seront autorisés de l'ouverture du métro jusqu'à 7 heures, de même que de 9h30 à 15h30 et de 18h à la fermeture. Leur accès au réseau souterrain sera permis pendant la belle saison qui, selon les critères de la STM, commence le troisième lundi du mois de mai et se termine le jour précédent le troisième lundi du mois d'août. Les mêmes plages horaires s'appliqueront aux vélos. L'autorisation concernant les chiens sera précisée dans le règlement amendé qui devra être approuvé par le Conseil d'agglomération de Montréal lors de son assemblée le 19 décembre 2024. Appareils motorisés. Le nouveau règlement interdira toutefois la présence d'appareils de transport personnel motorisés tels que les vélos électriques, les trottinettes électriques, les planches électriques, les segways et autres appareils du genre, tant dans le métro que dans les autobus. La croissance du nombre d'événements de combustion causés par les batteries de tels appareils, notamment en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, ainsi que l'absence de normes régissant la fabrication de ces batteries, ont appuyé la décision de la STM, souligne la Société de transport dans un communiqué. L'organisme indique que cette réglementation pourrait changer lorsque les différents paliers gouvernementaux auront légiféré sur le contrôle des batteries circulant sur le territoire. C'était « Les chiens officiellement autorisés dans le métro, mais pas les vélos électriques », un texte de Jeanne Corriveau paru le 5 décembre 2024 dans Le Devoir.
Pour tout vous dire, Jules a tout pour plaire. Un texte de Logan Cartier paru le 27 novembre 2024 dans le magazine Fugue. On vous en parlait dans Fugue en juin dernier. Jules est un virtuose à découvrir et à suivre, si ce n'est pas déjà le cas. Après avoir ébloui 1,5 million de personnes lors de ses participations à La Voix et à Star Academy, Jules lançait le 31 mai dernier, pour tout vous dire, son premier album solo, une plaquette pleine de soul, de groove, de jazz, de R&B, dans laquelle il exploite à fond sa voix. Si on y découvre quelques pièces au groove sulfureux et au rythme funky, certaines autres sont épurées et interprétées avec une touchante justesse et sensibilité. Ces chansons ont été élaborées en étroite collaboration avec le réalisateur Olivier Girard, offrant des arrangements riches et sophistiqués. D'abord découvert à La Voix, et ensuite à Star Academy où il a eu l'occasion de rencontrer Corneille, ce rendez-vous n'avait rien de fortuit. C'est ce qui a permis à ce dernier, qui venait tout juste de fonder la maison de disques R&B Soul Maison Canada, de voir tout le potentiel de Jules. J'ai rencontré Julien Charbonneau à Star Academy en 2022, et la première fois que je l'ai entendu chanter, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas le R&B authentique qui sortait de sa voix. Il y a des gens qui aiment tellement un style qu'ils arrivent à l'imiter, mais ce qui sort de la voix de Jules, ce n'est pas triché ou emprunté. C'est un vrai chanteur R&B. Quand on a lancé Maison Canada, l'étiquette de disque qu'il a cofondée, il était au haut de ma liste. L'album a une audace dans la réalisation, dans les arrangements. C'est d'une complexité musicale qui frôle parfois le jazz. Je pense que si, dans 10 ans, il y a une scène R&B forte au Québec, on va se tourner vers cet album et dire que c'était le début d'une renaissance. Bien que Jules soit l'auteur et le compositeur de la quasi-totalité de ses morceaux, Il a également fait appel aux talents de Sofia de Medeiros et Corneille qui lui ont offert « Dommage », réalisé par Luca the Producer. Inspiré par des artistes tels que Daniel Caesar, Jordan Rackey, Alan Stone ou encore Yatus Coyote, Jules avait une vision bien précise pour ce recueil musical, achevé en seulement quelques jours dans l'élan créatif typique des premiers albums. Le jeune chanteur s'ouvre au grand public, abordant les amours, la famille, l'ouverture, les perceptions et Montréal même. Dans ses paroles, l'une des thématiques qu'on peut voir émerger, c'est l'idée de tout pour plaire, de faire semblant, des murs qu'on laisse tomber et de la peur de dire ce qu'on a en dedans. En entrevue avec Fugue en juin dernier, Jules nous confiait « L'éducation était super importante chez nous et c'est venu avec l'importance de bien paraître en public. Très jeune, il fallait que je me tienne droit, que je sois poli et que je remercie les gens. Ce sont de très belles valeurs. Ça n'a pas mal influencé ma vie, mais ça a déposé un filtre sur moi. Quand je suis arrivé à l'âge adulte et que j'ai fait mon coming out à 18 ans, j'ai dû déconstruire beaucoup de choses. De 0 à 18 ans, il ne fallait pas que je dérange et que je déplace trop d'air. J'étais une sainte. Ensuite, j'ai décidé de commencer à vivre. » D'ailleurs, dans l'album, on entend un besoin de crier des sentiments et un désir d'expression très fort. Avec cet album-là, j'ai voulu exprimer et crier plein d'affaires. Ça me fait tellement de bien. Mais souvent, dans ma vie, il me manque de mots. Je ne sais pas toujours comment exprimer certaines choses. J'imagine qui ça va offenser et à qui ça va déplaire. J'ai toujours une arrière-pensée pour l'autre. C'est très rare que je laisse sortir des mots sans penser à la personne devant moi ou aux personnes qui pourraient m'entendre. Pour Jules, une musique qui lui ressemble est une musique qui rassemble. Gars de famille et fier Montréalais s'abreuvant des influences multiples de sa ville, il voit son art comme une main tendue vers les autres. Musicalement et dans ses paroles pour tout vous dire, est chaleureux et bienveillant. Rappelons qu'avec ce premier album, Jules s'est récemment retrouvé en nomination dans la catégorie « Album de l'année R&B Soul » lors du gala de la disque. C'était, pour tout vous dire, « Jules a tout pour plaire », un texte de Logan Cartier paru le 27 novembre 2024 dans le magazine Fugue.